Bonsoir à toutes, à tous. Nous arrivons à la fin de la première partie. C'est le sixième chapitre qui a une fonction un peu de reprise. Donc cette première partie qui concerne la relation entre le Christ et tout être humain. C'est donc le versant christologique de l'anthropologie théologique. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Donc ce « pour nous », cette relation entre lui, le singulier absolu, et l'universalité des humains. Alors, dans ce dernier chapitre, en forme de résumé, je déploie quatre modèles différents, donc on est de toute façon dans la théologie contemporaine, dans un pluriel, et nous avons déjà visité, donc à la page 72, 13, 14, le modèle qu'on appelle le modèle de substitution, et ensuite le modèle de solidarité. Vous avez chaque fois dans le dossier à la fin des textes clés qui vous permettent de retravailler un peu ces modèles. Alors, le modèle de substitution, je ne voudrais pas totalement y renoncer. Je vous ai proposé une formulation à la page 74. Donc, reformulation de l'expérience, le point 3, du salut au cœur de la modernité, recevoir la capacité d'exposition à autrui. Donc, la vulnérabilité non pas comprise comme un lieu d'autodéfense uniquement, ce qu'il est aussi, recevoir la capacité d'exposition à autrui, un cœur de chair ou des entrailles, capacité liée à la faculté de se souvenir et d'anticiper, et cela grâce à la venue de quelqu'un, de Jésus de Nazareth, venu discrètement se mettre à ma place sans quitter jamais la sienne. Vous voyez, c'est cette formule de la règle d'or, le mystère de la compassion et de la sympathie, qui est déjà un mystère éthique, pourrait-on dire, et anthropologique, que j'avais exposé un peu à la page précédente, mais avant déjà dans le cours. Et l'idée d'échange de place, on ne peut pas y renoncer complètement dans la relation humaine, sinon il n'y a pas de sympathie et de compassion active réellement à penser. Donc ça, c'est un premier modèle. Ensuite, le modèle de solidarité, un peu plus bas, vous avez donc la formulation que Rahner propose, une de ses formules brèves, B2, un peu plus loin, c'est justement un Dieu aimant le pécheur, originairement et sans raison, gratuitement, qui devient la cause de sa réconciliation. Donc, Dieu lui-même est en cause. Donc, qui est réconcilié lui-même comme un réconciliateur à partir de lui-même. Ça, c'est la première partie de la formule et ensuite la deuxième. Et c'est comme tel qu'il veut manifestement, à partir de lui, la même grâce, donc qu'il est en lui-même depuis toujours, la même grâce que procure le Christ et qui nous donne la possibilité de nous tourner librement vers Dieu. Alors, il y a un texte d'Écriture que je n'ai pas cité lundi dernier, que je n'ai pas marqué ici, mais en reméditant un peu la chose, c'est-à-dire la conceptualité de la cause, vous voyez, qui pose vraiment souvent pour nous question. Alors, c'est Hébreux 5, 9. Tout fils, il était, vous connaissez tout ce texte, il a appris par ses souffrances, donc le Christ, l'obéissance, donc ce rapport à l'origine, cette kénos, cette manière de vivre radicalement sa pauvreté comme une richesse, et conduit jusqu'à son propre accomplissement, il devint pour tous ceux qui lui obéissent. Donc vous voyez, à ce moment-là, l'obéissance, la nôtre, est adressé à lui, cause aetion du salut éternel. Donc il faut tenir les deux dans ce modèle de solidarité, les deux ensemble, au fond, c'est ça la tradition chrétienne. Dieu est cause absolue du salut depuis toujours. Et donc il fallait pas lui faire changer d'avis par rapport à sa création. Mais cette cause absolue se manifeste définitivement, ce que dit la citation à la page 75, vous voyez, point 2, là, « Vie et mort du Christ sont donc cause », elle se manifeste définitivement ou d'une manière irréversible dans l'obéissance même du Christ. Dans l'obéissance même du Christ. Et donc la solidarité intervient ici, voyez, d'une manière absolument originale, que j'ai exposé un tout petit peu plus haut, je dis en me référant à Rainer. C'est-à-dire, il faut supposer une solidarité entre lui et tout être humain, mais dit Rainer, Vatican II va le reprendre, c'est une relation sacramentelle. C'est une relation sacramentelle. C'est-à-dire, le Christ est signe du signifiant qui est la volonté absolue depuis toujours de Dieu par rapport à nous, par rapport à notre salut. Et donc la solidarité intervient ici, elle est sacramentelle en un sens, c'est-à-dire que tout être humain, c'est ça le présupposé philosophique, théologico-philosophique, tout être humain est rapporté d'une manière ou d'une autre à son origine, au mystère de son origine, ce que bibliquement on appelle obéissance, mais ce rapport à l'origine, il est toujours médiatisé par un rapport à autrui. Par un rapport à autrui. Voyez, je vous ai montré ça un peu plus haut dans le texte. Et donc, nous pouvons rencontrer d'abord le Christ, dit Rainer, comme cet autre, mais comme cet autre qui est la manifestation, le sacrement, je dirais, de la volonté salvifique absolue de Dieu depuis toujours. Voilà, donc le modèle de solidarité. Alors maintenant, rapidement, deux autres modèles. Les deux premiers, on pourrait dire, je dirais, ils sont plutôt nés sur un territoire, sur un terrain européen, relativement classique. Maintenant, on entre avec le modèle numéro 3 et 4, dans un contexte plus interculturel et pluriel. Et donc, il y a d'abord le modèle politique, ce qu'on appelle le modèle politique. Je vous donne un exemple, de nouveau, Jean-Louis Segundo, Jésus devant la conscience moderne. Et donc, il y a de nouveau, comme pour chacun des modèles, il y a toujours ce va-et-vient entre l'écriture d'un côté, une lecture des écritures, le premier chapitre, cette deuxième partie, et une anthropologie fondamentale. Et ici, le versant anthropologique, chez Segundo, tente d'éviter un double malentendu, ce qu'il appelle un double malentendu, c'est-à-dire d'interpréter, au fond, le langage néo-testamentaire du règne de Dieu d'une manière immédiatement spiritualisante. Il faut bien avouer que nous sommes tous tentés par cela, de ne plus entendre derrière cette notion du règne de Dieu véritablement une clé, comme il dit, politique. Donc de métaphoriser immédiatement la notion de règne de Dieu. Alors il s'agit quand même d'une mutation, je dirais, du réel pour Jésus, au point même de parler d'une nouvelle création. Alors l'autre affaire, l'autre malentendu contre lequel il se bat en Amérique latine, plutôt, c'est-à-dire la clé politique exclurait le langage religieux. Donc il s'agit ici vraiment anthropologiquement d'une articulation entre les deux. Il n'y a pas de plan religieux pur, et c'est là où interviennent toutes les, au fond, les métaphores du langage biblique, les métaphores utilisées par Jésus, qui sont tous des métaphores relationnelles. Et qui ont à la fois, je dirais, un fundamentum in re, pourrait-on dire, ils sont vraiment fondés dans la relation, dans la société, et en même temps transposés. Et apparaît ici une distinction, que j'adopte aussi personnellement, mais pas dans les mêmes termes, à mon avis, parce que il y a peut-être ici des difficultés chez lui, à mon avis, que j'évoquerai plus tard. La distinction entre ce qu'il appelle, il est le premier à utiliser ce terme, foi anthropologique. Alors, sur quoi risque-t-on sa vie? C'est une belle formule, hein? C'est une belle formule pour dire, au fond, cette foi anthropologique. Sur quoi risque-t-on sa vie? Alors vous voyez, c'est pour moi la difficulté, c'est un peu militant comme formulation, parce qu'on rencontre quand même beaucoup de gens qui ne se retrouveraient pas dans cette formule-là et qui ont quand même ce qu'on peut appeler vraiment une foi anthropologique. Hein, éduquer ses enfants, par exemple, les parents ne diraient pas qu'ils risquent leur vie, mais sans doute pas toujours, mais ils ont quand même une foi anthropologique. Donc, à mon avis, il y a peut-être ici une petite difficulté philosophique et phénoménologique à discuter. Et la foi proprement religieuse, qui est la relation de la foi anthropologique avec une donnée transcendante. Donc là, ce que Rahner appelle le rapport à l'origine, ultimement l'écoute, l'obéissance. Alors, le versant biblique, je dirais très rapidement, c'est des choses classiques que vous connaissez. Donc, il revient évidemment ici au récit évangélique. Donc, l'annonce du règne de Dieu. Jésus n'annonce pas une fin, comme le Baptiste, mais un commencement. Ça, on l'a déjà vu dans le premier chapitre, c'est tout à fait essentiel. Voilà, un commencement. Voilà, les temps sont accomplis. Avec, alors voilà la formule de Segundo, avec un changement de gouvernement au ciel et sur la terre, qui nécessite une conversion. Donc, le gouvernement de Dieu, désormais c'est Dieu lui-même qui gouverne. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les uns et une mauvaise nouvelle pour les autres. Une bonne nouvelle pour les pauvres et une mauvaise nouvelle pour les autres qui ne se trouvent pas dans cette position, parce que c'est une nouvelle d'égalité fondamentale devant Dieu. Et ce n'est pas uniquement une nouvelle d'égalité de toute fille et de tout fils de Dieu devant Dieu abstraite ou d'un point de vue spirituel, mais il s'agit vraiment de la place aussi dans la société des uns et des autres. La célèbre option préférentielle pour les pauvres qu'on retrouve aussi dans Evangelii Gaudium et dans les dénonciations qui se trouvent dans ce texte du pape. Et donc, Segundo tient à ce qu'on se mène pas, qu'on ne se méprenne pas, sur la passion et la cause de la passion de Jésus, la crucifixion. Ce n'est pas un malentendu uniquement, ce qu'on dit parfois. Mais il y a quelque chose, même s'il n'est pas un zélote, je dirais, roi des Juifs, quand même, il faut l'entendre, réellement. Il faut l'entendre. Alors, notamment, par rapport au Sanhédrin, évidemment, de son époque. Et donc, intervient ici, après le versant anthropologique et la partie exégétique, intervient l'interprétation proprement théologique. Jésus n'annonce pas seulement que Dieu va introduire son gouvernement propre en Israël et créer ainsi une nouvelle société. On pourrait dire que c'est l'utopie prophétique qu'on entend maintenant chez Isaïe et chez les prophètes, évidemment. Mais attention à ne pas à spiritualiser de nouveau, selon Segundo. Jésus prépare lui-même ce gouvernement de Dieu, non pas en mettant en œuvre des moyens pour s'emparer du pouvoir, bon là ça c'est la distinction radicale par rapport aux zélotes, mais en transformant les consciences, en particulier celles des pauvres. Celles des pauvres. Et apparaît ici une distinction, je dirais qu'on a souvent, qui est difficile à comprendre, il faut l'avouer, n'est-ce pas? Il faut l'avouer. Au centre de l'itinéraire de Jésus, il y a donc, ça c'est le point, le plan théologique, la révélation ultime de Dieu, à savoir la manière dont le cœur de Dieu voit et sent ce qui est en train d'arriver à l'homme dans l'Israël du temps de Jésus. Donc Jésus, en relation avec le cœur même de Dieu, faisant appel à ce cœur de Dieu, le mettant, je dirais, c'est plutôt mon langage, d'une certaine manière en scène autour de lui, dans son environnement. Ça, c'est le centre. Et à cette révélation répond la foi de Jésus. La foi de Jésus, l'Épître aux Hébreux, par exemple. Voilà. La foi de Jésus, son engagement et son pari pour les seules valeurs susceptibles, selon lui, de conduire au bonheur, c'est sa manière de collaborer à la transformation future de la société. Donc là, on a les béatitudes, à cet endroit-là. Donc, ce qu'il appelle les valeurs, mais c'est les béatitudes qu'il introduit ici. Donc, la conscientisation, je dirais, des pauvres, de la société. Alors, Jésus homme, voilà, je dirais, la difficulté un peu, la difficulté dans son ouvrage, à mon avis. Jésus homme ne peut exprimer sa foi sans passer par une idéologie. L'idéologie de Jésus. Alors ça suppose évidemment, vous voyez, un langage extrêmement spécifique. Il utilise ce terme au sens d'un célèbre Mannheimer. Voilà, vous voyez, c'est pas la conception marxiste du terme idéologie. Un système d'efficacité. C'est ça qu'il faut entendre. Une stratégie. Une façon précise, une parmi d'autres, et donc culturellement située, de collaborer à l'avènement du gouvernement de Dieu par un travail de conscientisation auprès de ses contemporains. Et il interprète la crise galiléenne dont nous avons parlé à plusieurs reprises comme une sorte de changement d'idéologie. Première stratégie de Jésus, vous voyez, c'est semer d'une manière très très ouverte. Voilà, tout le monde, tous, sans exclusif, et avec, je dirais, la crise galiléenne, la non-réception par une large part du peuple, il change de stratégie et d'idéologie, dit notre ami Segundo ici, c'est-à-dire il s'affronte directement au centre du pouvoir qu'est Jérusalem, en vidant le temple, etc., etc. Donc, Segundo tente quand même de relire à travers ses clés, sa clé politique, l'ensemble de l'itinéraire de Jésus et même la sotériologie. Il y a deux volumes, le deuxième c'est le christianisme de Paul. Alors, une dernière remarque ici, finalement, pourquoi, j'ai dit, toute cette opération? Pourquoi cette opération? C'est là où apparaît quelque chose de très spécifique, sans doute, de l'Amérique latine. Jésus, voilà la thèse, est considéré par la théologie chrétienne et par la sotériologie chrétienne comme fondateur d'une religion et d'une église universelle qui dépasse tous les particularismes. Et il dit c'est vrai, mais avec une limite terrible, il ne paraît pas possible de transférer Jésus à ce moment-là dans l'histoire politique. Si on revient au malentendu de début. Si on insiste uniquement sur l'universalisme de Jésus, on perd d'une certaine manière son enracinement galiléen et on risque aussi qui est particulier, et on risque aussi de perdre toutes les autres enracinements possibles dans telle ou telle société avec ses structures politiques, etc., sociales, culturelles. Et du coup, il devient difficile, au fond, d'avoir une sotériologie qui n'est pas une sotériologie du ciel, si je puis dire, mais une sotériologie enracinée dans les combats des femmes et des hommes de telle ou telle société donnée. Ce qu'il faut montrer, au contraire, et dans la perspective d'un modèle politique du salut, c'est que l'universalité du salut doit passer par une manière de prendre au sérieux la particularité de chaque pays et situations, et que l'unité du genre humain ne peut s'atteindre que par le gouvernement effectif de Dieu, qui s'inscrit dans l'histoire par nos multiples stratégies de conscientisation des pauvres et des exclus, mais aussi des riches. Donc on pourrait ici, s'il était ici en Europe, par exemple, on pourrait se demander, n'est-ce pas, en France, etc. C'est, à partir de ça, il faut se poser la question, quelle sotériologie concrète par rapport, par exemple, au mouvement alternatif, par rapport aux questions, par rapport aux questions de transition écologique, énergétique, etc. Et quelle alliance? C'est souvent sous cette, avec ce terme-là, que la théologie latino-américaine pose la question, avec quelle femme et homme de bonne volonté faire alliance dans un processus de conscientisation spécifique à partir des béatitudes qui permet éventuellement, effectivement, de dire quelque chose de concret par rapport au gouvernement, au règne de Dieu ici et maintenant. Alors, il y a peut-être une petite limite, quand même, qu'il faut souligner ici. J'ai déjà un peu suggéré ça il y a quelques instants. On risque toujours, dans un modèle politique du salut, d'oublier le caractère radicalement inconditionnel, gratuit, de la première annonce de Jésus. Voilà. Vous rappelez, on a beaucoup insisté par rapport aux baptistes là-dessus, dans le premier chapitre. Voilà donc un modèle politique. Et il y a un dernier modèle, maintenant je dirais à considérer, qui a été beaucoup développé par la théologie africaine, mais qu'on retrouve maintenant aussi, je dirais, aux États-Unis, sous l'angle du care, du soin, voyez, le modèle médical, le modèle du soin. Je vous renvoie à un petit bijou, je nomme comme ça, ce petit ouvrage qui s'intitule « Le soin du monde, accompagner la vie des autres » chez Bayard, Claire-Anne Baudin, qui a été réédité récemment. Voilà, là, vous avez, je dirais d'une manière extrêmement concrète, un modèle de soin développé anthropologiquement et théologiquement. Donc c'est pas uniquement, donc on trouve beaucoup aux États-Unis, au Canada maintenant, mais l'origine est quand même en Afrique, il faut bien le dire. Donc je vous ai donné ici un texte de Cécile Collier de Guinée. De nouveau, évidemment, je dirais un retour au Jésus pré-pascal et au récit de guérison. Dans ces guérisons, Jésus tient toujours compte de son environnement concret, galiléen. Donc on le voit bien dans les récits évangéliques, quand on les regarde un peu d'une manière historique. Et il y a ce qu'il dit ici dans ces récits de guérison, toujours un contre-don, il utilise ce terme, don, contre-don, mais qui fait en même temps sortir, je dirais, de cette équivalence de don et contre-don, parce que la foi est ici, je dirais, quelque chose d'absolument unique. C'est un acte radical de confiance au donateur. Alors, Collier insiste ici beaucoup sur, au fond, je dirais, la figure du guérisseur, du thaumaturge, et élargi anthropologiquement à toute la société africaine. Et il est très sensible, au fond, au problème crucial, au plan de l'intégration même du guérisseur, du thaumaturge. Il dit, il y a pas, le thaumaturge donne une partie de son humanité à d'autres. C'est pour ça qu'il peut guérir. On a ces magnifiques formules dans le Nouveau Testament à partir d'Isaïe, c'est par ses blessures qu'il nous a guéris. Et paradoxalement, dans la figure de Jésus, cet acte de guérison, cette communication d'une humanité, d'une santé, pourrait-on dire à son vis-à-vis, qui exprime un acte de foi, multiplie l'humanité de Jésus lui-même en quelque sorte. ça ne diminue pas son humanité. Au contraire, d'une certaine manière, il y a une sorte de fécondité ici qui s'exprime. Et ça pose évidemment un problème énorme, énorme d'intégration du thaumaturge dans la société elle-même. Et c'est pas étonnant qu'on trouve, je dirais, dans le Nouveau Testament, c'est par Belzéboul, hein, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Ce genre de choses, voilà. Donc, qui est la manifestation anthropologique, au fond, de cette sorte de d'exclusion que la communication de l'humanité, de la santé à quelqu'un d'autre qui est malade, est très vite confondu avec la magie et d'autres pratiques de ce genre. Alors ça, c'est le point de départ, au fond, chez ces colliers. Alors ensuite, ce qui est, à mon avis, très intéressant chez lui, c'est-à-dire qu'il relie les récits de guérison et les pratiques de guérison dans la société africaine à des phénomènes de société. Donc il ne s'agit pas uniquement de guérir le corps individuel, comme dans le Nouveau Testament, il s'agit de la guérison du corps social. Toute maladie dans le corps, dit Matthieu 4. Donc il y a une sorte de rapprochement que nous avons sans doute perdu dans nos sociétés européennes ou euro-atlantiques entre le corps individuel et le corps social. Chez l'homme négro-africain, il y a une forte aspiration à la vie, donc la notion de vie à la fois individuelle et collective, elle est relationnelle, alors proche parfois évidemment de l'animisme, il le dit. Mais le christianisme ne peut entrer réellement dans les cultures africaines qu'en participant au combat pour la vie, et ça c'est précisément une sorte de lutte qui se joue pas uniquement dans le corps individuel ou dans le corps social, mais qui se joue toujours à la frontière des deux. Et c'est là où apparaît un choc culturel, sans doute avec l'Occident. Alors maintenant, on en revient un peu parce que on a état de médecine parallèle, etc., qui sont arrivés chez nous, heureusement. Donc on est davantage maintenant sensible en Europe à l'unité psychosomatique des êtres humains et leur relation avec leur environnement et la société. Mais lui, il est sensible à ce choc entre des sociétés holistes, c'est le terme technique de Dumont, anthropologue, holistes où tous les éléments sont intégrés dans une totalité, le corps individuel dans le corps social, et où la maladie révèle toujours une déchirure dans le corps social et suscite aussi évidemment des formes de réintégration et d'intégration. On voit bien ça avec la femme hémorroïde dans le Nouveau Testament par exemple et bien d'autres situations qui nous sont racontées ici. Alors que dans nos sociétés contemporaines, modernes, occidentales, on sépare les domaines, la différenciation. Parfois jusqu'à outrance, n'est-ce pas? Jusqu'à outrance. Des spécialisations, d'analyses, etc. Avec le problème de faire l'unité. Et ici, donc, il greffe là-dessus toute une analyse sociopolitique, parce qu'évidemment, la société moderne est arrivée, bien sûr, je veux dire, en Afrique aussi. Donc, le conflit se joue à l'intérieur des sociétés africaines, entre, évidemment, le choc des médecines. Et il fait tout un historique, il y a la pratique médicale à l'ère de l'indépendance, avec la question finalement du pouvoir politique et de la santé, et c'est là où introduit finalement de nouveau le modèle politique, c'est intéressant, c'est-à-dire si on veut vraiment réfléchir à la guérison, on ne peut pas ne pas le faire avec une préoccupation de la justice, une question de la justice. On voit bien, n'est-ce pas, maintenant la presse est pleine, je dirais, du virus Ebola, etc. Donc on voit bien de l'extrême actualité et ici d'une telle réflexion qu'on ne pousse pas assez loin, à mon avis, à l'heure actuelle, précisément pour montrer Oui, je dis la tradition chrétienne, je dis en Occident, c'est tellement intellectualisé depuis le 19e siècle. Pourquoi on a une congrégation pour la doctrine de la foi? Mais on n'a pas une congrégation pour la guérison des êtres humains. Mais vous voyez, j'ai dit, les premières questions qu'on se pose quand on a les récits de guérison devant soi, est-ce que ça s'est passé réellement? Est-ce que c'est des miracles, vous voyez, dans un monde positiviste, etc. C'est dramatique, d'une certaine manière, comme détournement du fond biblique. Et on voit bien que c'est une question anthropologique et une question de société qui est ici en jeu. Alors, sur cette base, à la fois, je dirais, éthique et néo-testament, il construit donc ce qu'il appelle un modèle de guérison, où le concept de péché est finalement second. Il est second, comme souvent, je dirais, dans les récits de guérison du Nouveau Testament. Le mystère pascal est compris comme une déchirure de l'histoire. Et donc, c'est là la déchirure fondamentale par rapport à l'animisme. Une déchirure inévitable, donc un nouveau rapport à la mort et à la vie qui n'est pas prédonné dans les sociétés africaines. Le salut est donc compris ici comme guérison à la fois des individus et des collectivités, guérison de l'humanité au nom de Jésus. Et voyez, je vous ai donné ici une citation que vous retrouverez dans le texte, décisif. Ce que l'homme négro-africain craint le plus, c'est la coexistence de la mort et de la vie. La mort dans l'âme. Ah, ça c'est une belle expression, en français aussi, la mort dans l'âme. La présence des morts parmi les vivants, l'irruption des fantômes. La guérison n'est pas la simple consolation, mais la préparation à réintégrer la famille ou à la communion des saints ou à entrer dans une nouvelle collectivité, celle des ancêtres, pourrait-on dire. Donc là, il y a un rapport tout à fait décisif. Et le nom de Jésus a une fonction d'intégration, ici, par le passage de la déchirure de la vie. Donc cette nouvelle collectivité n'annule pas, n'est pas une affaire de continuité, mais passe quand même par la discontinuité et par la séparation des morts et des vivants. Voilà. Ça c'est donc le quatrième élément. Alors quelques réflexions rapides, je dirais, de conclusion de cette partie. Alors, que retenir de cette traversée? Vous voyez, c'est un petit exercice que je vous propose de relecture pour vous maintenant. Les quatre modèles sont la manifestation d'une diversité théologique et le symptôme d'un pluralisme historique et culturel. Donc, on ne peut plus réduire les choses à un seul modèle. On peut les classer en fonction des trois paramètres d'une anthropologie contemporaine que j'ai annoncé au premier chapitre, donc là vous corrigerez, à la page 28 suivant, vous allez retrouver ça. Donc le paramètre éthique, vous trouvez le paramètre éthique dans les quatre modèles. Donc vous pouvez essayer un peu de les repérer, de vous le reformuler. Le paramètre du récit de la vie de Jésus, donc avec les quatre étapes que j'avais analysées. Et voyez, chaque modèle insiste sur une étape plus particulière. Même s'il y a une tendance, à l'heure actuelle, dans la sotériologie, de prendre quand même l'ensemble du récit de Jésus comme une sorte de décalibrant des modèles les uns par rapport aux autres. Et il y a, vous l'avez senti maintenant, aussi des différences culturelles importantes. Donc ça, c'est, je dirais, un peu une première indication pour relire un peu l'ensemble de cette première partie où j'ai reconstruit très très progressivement à travers l'histoire ces différents modèles. Alors ensuite, évidemment, il y a un intérêt pastoral derrière. Parce que quand vous avez une pluralité de modèles, vous pouvez entrer par différents biais, dans la catéchèse, dans la prédication. Différents points de départ pour la conversion chrétienne. Donc on peut partir du point de vue éthique, mais on peut aussi partir directement du point de vue du récit de la vie de Jésus avec les différentes étapes et qui font paraître différentes facettes de la question du salut. Et apparaît ici, d'une manière forte, je dirais, la tâche spécifique que j'ai essayé un peu d'exercer dans cette première partie de la dogmatique, c'est-à-dire elle a une vigilance d'équilibre. Une vigilance d'équilibre. Voilà, on peut appeler ça comme cela. La nécessité d'un équilibrage. Et on va bien, je dirais, c'est déjà l'enjeu de la crise galiléenne pour Jésus, quand Jésus lui-même doit changer de point de vue. Ça, on risque d'oublier si on centre tout sur le mystère pascal. Jésus lui-même est obligé de changer de point de vue face à la large non-réception. Vous aussi, voulez-vous me quitter? Et il va changer. Une autre manière d'aborder, voilà, les êtres humains à ce moment-là. Et on voit l'équilibrage, par exemple, chez ces colliers, je trouve ça magnifique, c'est-à-dire, il entre par un modèle très, très développé en Afrique, qui est le modèle de la guérison, et il introduit un autre point de vue plus politique, à un moment donné. Vous voyez, là, on voit bien, je veux dire, le théologien qui éprouve le besoin de rééquilibrer les modèles les uns par rapport aux autres, et on a eu ça déjà au Concile de Trente, quand le Concile de Trente, dans son décret sur la justification, a distingué des étapes en disant une fois le baptême étant acquis d'une certaine manière, le seuil est passé, il y a d'autres seuils dans l'existence humaine à passer qui demandent finalement des discernements plus affinés. Alors, dernier élément, pour revenir à la question initiale maintenant, et qui introduit la partie suivante. Donc on peut retenir finalement que le Concile Vatican II a refusé avec force la perspective d'une prédestination restrictive. Donc, a introduit, je vous ai montré ça, Gaudium et Spes 22, paragraphe 5, mais beaucoup, beaucoup d'autres textes, la perspective universaliste, c'est-à-dire la présence du Christ depuis toujours. Et il s'est appuyé sur une prise de conscience, évidemment, c'est pas un hasard que ça vient en 62, c'est-à-dire la fin de la décolonisation, l'apparition du pluriculturalisme et de la mondialisation. Et c'est donc, au fond, je dirais, cette universalisation, pour la première fois, on peut dire que le christianisme a fait le tour du globe, on a une conscience globale, se pose la question, est-ce qu'on peut confondre tout simplement la grâce baptismale, donc la relation explicite au Christ, et la grâce répandue universellement par son esprit dans le monde depuis toujours. Donc vous voyez le modèle de solidarité. J'ai souligné aussi évidemment des ambiguïtés du modèle de solidarité dans Gaudium et Spes en disant, et c'est peut-être un peu triomphaliste pour nous aujourd'hui, de considérer le christianisme comme humanisme achevé. L'humanisme intégral. Voilà. Donc, ça pose donc de nouveau la question du point de départ du cours, et on y revient maintenant. Qui est quoi, finalement? On peut le formuler comme ça. Qui et quoi sont capables d'unifier le genre humain? Et comment? Une fois qu'on est entré dans la phase de l'histoire de l'humanité dans laquelle on est. Au cœur de l'œuvre rédemptrice du Christ, sa sainteté, c'est ça la réponse provisoire que je propose, qui peut être retraduite en termes de style de communication, allant jusqu'à une mise en jeu radicale de sa personne. Face à la violence d'autrui, le salut ne peut venir d'une contre-violence. Je répète ici ma formule, déjà exposée à propos du modèle de substitution, mais de la capacité inouïe d'une des libertés de s'exposer à la violence d'autrui pour l'émouvoir, pour laisser la violence aller jusqu'au bout et se vider d'elle-même. Ce qui implique évidemment un terme tout à fait central de la théologie paulinienne qui est la patience. La patience de Dieu. La patience. Donc rien n'est fait à la place de l'humanité. La patience. Donc le modèle de solidarité qui intègre une certaine substitution, j'appelle cela un style absolument reconnaissable, ou une manière d'être et agir qui seule est capable de gérer les potentiels de violence dans l'humanité. Manière d'être et d'agir qui seule est capable de faire face au mystère du refus et du mal. Vous voyez ce qui émerge à la fin de la crise galiléenne. Et moi, j'ai fait référence ici à ce psaume, n'est-ce pas ? Domine le Messie est celui qui domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Que veut dire dominer jusqu'au cœur de l'ennemi ? Voici l'œuvre, je dirais, messianique, je dirais, du Christ, en vue d'une paix universelle, mais qui est évidemment le règne de Dieu, hein, qui est évidemment, je dirais, une utopie, qui est toujours devant l'humanité. Mais l'humanité a passé quand même un seuil. C'est-à-dire au moment où, je dis, on a fait le tour du globe et on commence à s'interroger, est-ce qu'il y a d'autres globes habités dans l'univers? Et on est renvoyé toujours finalement à notre globe et à son avenir. Donc la question messianique se pose avec une très grande radicalité. Alors, je propose ceci, c'est-à-dire si vous avez, je dis maintenant, après, vous pouvez peut-être relire un tout petit peu l'ensemble maintenant, au point où on en est. Et si vous avez des questions, vous me les passez. Et on va passer le moment venu à un moment pour y répondre. Je crois que c'est plus efficace que si j'ai dit la première question maintenant qui sort, et on passera du temps pour y répondre. Il vaut mieux, j'ai dit, passer un peu de temps maintenant, laisser un peu passer de temps de relire. Et si vous avez vraiment des questions, moi je me prête très volontiers à ces questions, au contraire. Bien, c'est-à-dire, on va à partir de ça maintenant, à partir de la question que je viens de formuler, elle ouvre déjà la deuxième partie maintenant du cours, qui sera évidemment plus brève. L'homme créé à l'image de Dieu, radicalement marqué par la fragilité et le péché, mais sauvé par la grâce du Christ. Alors, où est-ce que nous en sommes, si vous voulez, dans notre interrogation? Voyez, on passe par beaucoup de détails et de connaissances un peu historiques. Je dirais, ça fait partie d'un cours un peu manuel, je dirais, de deuxième, troisième année, de premier cycle. Il faut absolument visiter un peu tout ça. Mais derrière, il y a un questionnement, il y a une interrogation. Et donc, c'est avec celle-là qu'il faut un peu continuer à aborder les choses. La question de fond reste, comment concevoir le lien du salut entre le Christ et tout homme? Et c'est la question qui nous accompagne depuis le début. Gaudium et Spes nous a donné une réponse, je dirais, relativement simple, et je vous la remis un peu plus loin, vous voyez le point 3, je vous mets toute la citation, ce qui est la thèse de Gaudium et Spes, la thèse principale, Gaudium et Spes 22, paragraphe 5. Et cela, donc tout ce qui est dit à propos du Christ, ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, vous rappelez la formule du germe divin, le rapport à l'origine et à l'autre en tout être humain, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, l'argumentation de Gaudium et Spes, que j'ai commentée déjà, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère du salut. Oui, ça c'est la solution de Vatican II, qui est géniale d'une certaine manière, il faut bien le reconnaître, parce qu'elle distingue parfaitement la gratia, la grâce du baptême, qui nous associe explicitement au mystère pascal, et la grâce du Christ universellement répandue, telle qu'on l'a dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu aujourd'hui pour l'Immaculée Conception. Voilà. La grâce universelle, la création dans le Christ. Mais seul Dieu fait le lien. Seul Dieu fait le lien, ce qui veut dire aussi une sorte de d'agnosticisme ou disons une théologie négative, c'est-à-dire nous ne savons pas comment. Donc nous avons à vivre avec ce paradoxe fondamental. Ça c'est la solution donc de Gaudium et Spes. Alors la question évidemment aujourd'hui s'est beaucoup complexifiée 50 ans après, parce que nous avons une conscience aiguë de la diversité des cultures, des religions, qu'on n'avait pas de cette manière-là au lendemain de la décolonisation, il y a 50 ans. Donc la question de l'universalité du salut christique est maintenant posée en toute radicalité, et vous rappelez la formule, n'est-ce pas, quand même, l'anthropologie nous dit « l'homme peut devenir humain sans Dieu ». J'avais rappelé cette formule. Donc, on revient, si vous voulez, à cette question. Alors, le point suivant reformule le problème théologiquement et apporte une hypothèse de solution. Pour qu'on entre déjà un peu avec une hypothèse de solution dans la réflexion qui va venir. Le symbole lui-même situe le mystère du salut dans un cadre plus vaste, plus universel, plus englobant, la création. En lui, tout a été créé pour nous les hommes et notre salut, il est descendu du ciel. Donc vous voyez, ce n'est pas uniquement l'événement, mais l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, tous les deutéropauliniens relient l'œuvre du Christ à Dieu, mais à Dieu en tant que créateur. Sinon, on est dans la Jésus-logie, si vous voulez. Mais on n'est pas dans la Christologie et dans l'anthropologie théologique. Donc il faut revenir maintenant à ce cadre. Alors, soit on peut devenir heureux et pleinement humain sans être chrétien. Nous en avons sans doute autant qu'on peut le savoir d'autrui. Il faut toujours avoir cette réserve. Autant qu'on peut le savoir, on a peut-être cette expérience-là. Et on peut peut-être définir à un premier niveau le salut de cette manière-là, devenir heureux et pleinement humain. Et ça, malgré tout le négatif qui traverse l'existence humaine, s'exprimant parfois par une sorte de gratitude, voilà, qu'on retrouve chez des êtres humains. Question. Les chrétiens croient que ce salut, le bonheur qui rend pleinement humain, vient pour tout homme de Jésus-Christ. Quelle que soit la conscience explicite ou implicite quant à sa source. Donc là, je rappelle la formule, c'est la formule de Gaudium et Spes, dernier développement doctrinal, théologique qu'on trouve. Donc les chrétiens croient que ce salut, c'est-à-dire le bonheur qui rend pleinement humain, vient pour tout homme de Jésus-Christ. Alors maintenant, l'hypothèse pour la suite, on verra si elle est à la fois, si elle se tient et si elle est dogmatiquement correcte, orthodoxe, comme on dit, croire cela, que le bonheur qui rend pleinement humain, bonheur infiniment diversifié, selon les hommes et les cultures, vient du Christ Jésus, cela crée, voilà un peu la cauda, si je puis dire, la suite, hein, crée une façon de devenir humain tout à fait particulière et même singulière. Donc quel est le type d'humanité qui est véhiculé finalement par cette foi qui est la nôtre et qui universalise la figure du Christ. Comment le montrer? Le parcours de la première partie nous a orientés vers l'idée de l'inscription de la problématique du salut, alors le bonheur de devenir humain, je traduis, dans le cadre d'une anthropologie profane. Voyez, ça c'était mon hypothèse dans l'introduction, dans le chapitre 3. Il s'agissait d'inscrire le salut dans une anthropologie profane, dans nos Galilées respectives. Cette orientation est corrélative au rapport entre salut et création. Inscrire le salut dans la création, c'est l'expression théologique de cette tâche qui consiste à inscrire l'œuvre du Christ, le salut, dans nos anthropologies profanes d'aujourd'hui. Il y a une corrélation. L'enjeu de cette deuxième partie est de concevoir ce rapport tout en engageant en même temps un lien entre la perspective théologique et la perspective empirico-philosophique sur l'homme. Donc, vous voyez, on fait le mouvement inverse maintenant. Le problème, c'est, vous voyez, c'est le sous-titre. La structure de l'expérience du salut dans le cadre de l'anthropologie contemporaine. Comment retraduire, au fond, aujourd'hui, donc, le salut dans la création, c'est-à-dire dans ce qui est le réel autour de nous. Et c'est là où apparaît la vertu fondamentale du modèle généalogique, vous vous rappelez ? Je l'ai développé, qui est parfaitement adapté à cette double perspective à la fois contemporaine et théologique, les deux perspectives se reliant dans un même intérêt pour la genèse des choses. L'anthropologie contemporaine s'intéresse, nous allons le voir, à la genèse de la société. Comment une société, vous voyez, se met en place et se remet continuellement en place quand il y a crise à traverser, et il y a la genèse de la foi en un salut. Ça, c'est les récits évangéliques qui nous le proposent. Donc, c'est le retour généalogique vers la genèse de l'anthroponosphère, comme on dit aujourd'hui, qui nous renvoie pour les deux perspectives à une structure qui est le sous-titre. Voilà, d'un point de vue méthode, très très rapidement, ce que nous allons faire maintenant. Alors, je vous invite un peu de feuilleter rapidement. Donc, le premier chapitre sera de nouveau un chapitre biblique, de l'Épître aux Romains à la Genèse, une structure biblique disputée. Voilà. Alors, ensuite, vient le deuxième temps, donc le chapitre 2. Donc, vous feuilletez. À la page 92, la genèse des sociétés humaines au sein d'un environnement gravement menacé. Donc là, on retrouve l'anthropologie contemporaine. Un troisième chapitre sur le caractère problématique de la vie, c'est-à-dire le pluriel, hein, la page 102, et une longue reprise avec le chapitre 4 à la page 106. Qui revient à l'hypothèse que je viens de très rapidement de vous proposer. Alors, tout de suite, on va entrer dans le premier chapitre un peu avant la pause, donc à la page 82, en retrouvant là maintenant des choses, je dirais, plus connues pour vous sans doute déjà, c'est-à-dire d'un point de vue biblique. Alors, avec la question, pourquoi lire la Genèse en partant de l'Épître aux Romains? Parce que on peut lire l'Épître aux Romains comme une réinterprétation de la Genèse. Vous voyez, on est là dans le modèle généalogique. Alors, je donne ici déjà un peu les éléments, une petite structure. Donc, le petit conseil de lire les trois premiers chapitres de la Genèse et de relire l'Épître aux Romains, au moins de 1 à 9, disons. De 1 à 8, pardon. Donc, au cœur, le chapitre 5, avec la typologie Adam-Christ. Donc, vous avez là la relation entre Christ et tout homme. D'autres éléments, donc le début, la situation historique de tous les hommes, juifs et païens, marqués par le péché. Et avec la magnifique rupture ici, mais maintenant, unis, aujourd'hui, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. Et à l'opposé, en 9-11, vous voyez, on est dans une structure un peu concentrique, 9-11, tous les hommes aujourd'hui et à l'avenir, juifs et païens, de 9 à 11, oui, il faut lire jusqu'à 11 quand même. Alors, vous avez ensuite, je dirais, avant et après le chapitre 5, là, sur Adam et Christ, vous avez après l'existence chrétienne fondée sur le baptême. Donc là, on est dans la particularité proprement chrétienne. Et Romains 4, magnifique chapitre sur la figure prophétique de la foi d'Abraham et de Sarah, chez Paul. Et de Sarah, les deux. Alors, voilà, j'ai dit, la structure, vous voyez bien, il y a la Genèse, elle est vraiment continuellement derrière ici. Et vous avez alors plusieurs niveaux ici qui sont enchevêtrés. Vous avez à la fois l'histoire collective et individuelle sous le signe du péché et du salut. Vous avez le retour à l'origine et le rapport à la fin. Donc, toute l'extension temporelle et l'individualité et la collectivité sont présents dans le texte. Ces rapports complexes entre l'histoire, l'origine et la fin existent déjà dans la Genèse. Hein, voilà la thèse. C'est pour ça qu'on les lit tous les deux. Parce que vous avez deux récits de la création, vous le savez bien, le récit sacerdotal et le document yaviste. Deux récits. Ils sont tardifs, bien sûr, ces récits, et ils sont le fruit de manière différente de concevoir l'histoire et de son origine. Donc le rapport entre l'histoire, hier, aujourd'hui et demain, et l'origine. Et qui est la même question, évidemment, de l'Épître aux Romains. Donc ça introduit d'une certaine manière une complexification, parce que l'Épître aux Romains, mais vous allez voir, je vais relativement simplifier, j'ai dit, les choses, c'est quand même complexe. Et ça explique pour une bonne part aussi les problèmes d'interprétation de ces deux textes clés dans l'histoire des confessions chrétiennes. Évidemment, le débat confessionnel dont on a parlé dans la première partie se greffe, s'explique à partir de la complexité, je dirais, de ces textes. Donc, mon objectif, c'est de vous montrer où sont, au fond, les options, je dirais, les choix qui apparaissent ici. Et alors, il y a, si vous voulez, je dirais, trois étapes dans notre analyse. Il y a d'abord la question du rapport à l'origine. Et c'est là où j'essaie un peu d'apurer, si je puis dire, au fond, les difficultés que nous avons jusque dans la catéchèse avec ces textes. Le rapport entre l'histoire et l'origine dans la perspective classique. Ensuite, notre conscience commune aujourd'hui, les difficultés. Et ensuite, comment traiter cela, je dirais, aujourd'hui. Donc ça, c'est les pages 84 et 86. Et ensuite, on va s'attaquer, si je puis dire, un peu au problème du péché. Qu'est-ce que c'est, finalement, la gravité du péché? Comment comprendre ça? Donc ça, ce sera la suite à partir de la page 86. Et le dernier point introduit déjà le problème de l'anthropologie d'aujourd'hui. Bon, on va faire d'abord la pause. Donc d'abord, un bref rappel à propos de cette question du rapport à l'origine. Et c'est des termes que j'ai déjà utilisés un certain nombre de fois. D'abord, un bref rappel de la perspective classique, dont je vous ai donné des larges éléments déjà dans le chapitre 2 de la partie précédente sur saint Augustin, et qui a déterminé évidemment toute la perspective occidentale. Alors, le schéma augustinien, donc, qui est un schéma à trois temps, qu'on retrouve dans tous les catéchismes jusque dans les années 60 du dernier siècle. Et alors, donc, il y a ce mot antelapser, postlapser. Alors, le lapsus, je dirais, on sait ce que c'est, n'est-ce pas, un lapsus, hein, j'en fais de temps à autre quand je suis fatigué, je vois des sourires, des lapsus. Lapsus, ça veut dire chute. Et donc la chute, vous savez bien ce que c'est dans le récit de la Genèse, donc d'Adam et d'Ève, on appelle ça le lapsus. Et donc vous avez chez Augustin ce schéma en trois étapes que j'avais exposé d'ailleurs, maintenant c'est les termes techniques, antelapser, c'est-à-dire c'est la création de l'homme et c'est le paradis. Ensuite, évidemment, après la chute, l'état post-lapser, donc avec la chute, c'est le début de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons, parce que le paradis, nous ne le connaissons pas. Voilà, elle a été de telles conséquences, cette chute, qu'il faut un rédempteur. Et donc on lit par exemple le texte que vous avez entendu aujourd'hui à propos de l'Immaculée Conception, on le lit dans la Genèse comme un premier texte de prophétie. Donc la nouvelle Ève va écraser la tête du serpent. Donc, la prophétie, ça c'est l'état post-lapser. Et ensuite vient le temps du Christ et de l'Église, qui est le nôtre. Donc vous trouvez ça évidemment dans la cité de Dieu, un peu partout, je l'ai exposé dans le chapitre 2. C'est ça le schéma. Et au cœur de ce schéma, il y a l'interprétation augustinienne de Romains 5, 12. Donc vous trouvez ça à la page 44 suivant, mais je ne vais pas l'expliciter tout de suite parce qu'on va y revenir. Il y a un problème de traduction, je vous l'avais déjà dit, n'est-ce pas, autour de 5-12. Et apparaît ici, chez Augustin, donc, la notion du péché originel. Alors, il faut bien distinguer ici, avec toute la néoscolastique, avec toute la catéchèse, entre deux éléments de ce péché originel, pour avoir la précision des concepts ici, le péché originant et le péché originé, originant. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, donc ça c'est Romains 5, 12, suivant, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Donc la thèse est ici, la création est bonne. De toute façon, bon, c'est la thèse anti-manichéenne, vous rappelez, elle est radicalement bonne, l'homme est créé bon, et à un moment donné, voilà, le péché est entré dans le monde par un seul, Adam, voilà. Romains 5. Donc ça, c'est le péché originant. Et le péché originé, c'est la suite du texte, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes par celui, donc ça, c'est la traduction de la Vulgate qui pose justement problème, par celui en qui tous ont péché. Ça, c'est le péché originé. C'est-à-dire, c'est la transmission du péché originant à toute humanité. Ce qu'on désigne donc par péché originel est la combinaison du péché originant, Adam, et originé, tout homme. Voilà. Retenez bien ce vocabulaire. C'est-à-dire, pour l'examen en cinquième année, à un moment donné, si un des enseignants vous pose la question « Qu'est-ce que c'est le péché originel ?» Voilà, vous ressortez ça. Bien. Maintenant, évidemment, viennent le sept contrat pour parler avec saint Thomas ou le Moyen-Âge, c'est-à-dire la conscience commune et la théologie contemporaine. se révolte contre ce genre de schématisme et avance, évidemment, je dirais, 4 arguments. Vous voyez, c'est là où j'introduis une sorte de simplification, parce que c'est vraiment très complexe, et je vais vous donner les 4 arguments. Alors, premier argument, l'impossibilité de concevoir un état paradisiaque de l'homme. Dans le désir d'honorer la création de l'homme par Dieu, on soustrait l'homme du paradis au rudeste actuel de la vie, à la concupiscence, ça c'est le terme de saint Augustin, voilà. Tu ne convoiteras pas, Romains 7, concupiscence, et surtout à la mort. À la mort. Dans le paradis, il n'y a pas de mort, il n'y a pas les rudesses de l'existence humaine. Voilà, il n'y a même pas la concupiscence. Tu ne convoiteras pas. Une vie sans mortalité, sans douleur, plaisir, vieillissement et mort relève du mythe. Et bon, les sciences nous le rappellent clairement. Avec la tendance fâcheuse à attribuer ces réalités structurelles du vivant au péché, donc à la chute. Premier argument. Deuxième argument, ce que j'appelle, moi, la causalité adamique. Le pauvre Adam, n'est-ce pas, on le charge, évidemment, dans ce schéma de beaucoup, beaucoup de choses, n'est-ce pas, d'une double responsabilité. Premièrement, par lui, le péché est entré dans le monde, péché qui, commis au début de l'histoire de l'humanité, commande l'existence du péché en tous et en chacun jusqu'à la fin des temps. Il faut dire, moi j'ai entendu ça encore dans le catéchisme que j'ai reçu quand même. Oui. Et je vois des visages d'autres aussi. Voilà. Deuxièmement, il est en même temps responsable de la mortalité de l'homme. En même temps. Voilà. Alors évidemment, je dirais, il faut comprendre ici l'intention de ce mythe, si je puis dire. Ce mythe, je dirais, tel qu'il a été conçu finalement par Augustin, plus ou moins, voilà, et qu'il est devenu. Il faut comprendre l'intention de cela. Donc c'est le combat d'Augustin contre le manichéisme. C'est pour ça que j'ai tellement insisté dans ma première partie, dans le chapitre là-dessus. Les données élémentaires de la douleur et du plaisir, du vieillissement et de la mort existent. Les attribuer à la nature. Alors je peux le formuler sous forme question. Est-ce rendre le Créateur responsable? Voyez, ne faut-il pas charger alors plutôt l'homme, Adam? Et revient évidemment les questions de théodicée que nous posons ici. Alors, il faut, je dirais ici, voir, je dirais exactement le récit, évidemment de la Genèse, notamment le deuxième récit. Vous avez les exégèses, les commentaires du Père Beauchamp, et maintenant d'André Vénin, qui sont très très intéressants, donc les exégètes, dans vos cours d'exégèse, j'espère que ça revient un tout petit peu quand même. Voilà, le récit de la chute. Dans la Genèse, distingue avec le plus grand soin les personnages, les rôles et le temps. Donc ça, c'est la narratologie, n'est-ce pas? Tous les éléments montrent à l'évidence que c'est le couple humain qui a péché. Tandis que la faute se prépare et lorsqu'elle s'accomplit, Dieu disparaît. Donc là, il y a une intention, Dieu disparaît dans le récit lui-même. Totalement, il disparaît de la scène et laisse le couple à son propre conseil. Ça, c'est une formulation de la sagesse, n'est-ce pas? Dieu laisse les êtres humains à leur propre conseil. Éclairés par Dieu, ils suivent des suggestions contraires à l'impératif divin. Donc ça, c'est le récit. Alors, se présente ici, dans le texte lui-même, mais c'est là où il faut regarder de très près, une équivalence entre la douleur, etc., etc., les éléments que j'ai déjà donnés, et la mort d'un côté, et le châtiment de l'autre. On peut avoir cette impression dans le texte. Étant le bien absolu, Dieu est alors déculpabilisé. C'est vrai, on a l'impression que le narrateur fait tout pour montrer que Dieu lui-même est étonné. de ce qui se passe. Tout d'un coup, il vient voir. Hein. Et c'est une manière aussi de parler de sa patience. Il est surpris. Hein. Il est lui-même surpris. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que sa création prenne une telle tournure. Voyez. Donc là, et c'est assez clair ici. Le châtiment, il faut bien le comprendre, est déjà dans le récit lui-même une sorte de rationalisation. Parce qu'un mythe veut expliquer. Un mythe explique, c'est ça la fonction. Il rend supportable quelque chose. Une rationalisation qui permet d'expliquer et rendre viable douleur et mort. Alors du coup, après, est-ce qu'on trouve ici dans le texte une accusation généralisée de l'humanité ? Peut-être à la fin du récit. Mais voyez, très rapidement peut s'introduire ici la confusion entre mal-souffrance, j'avais déjà dit ça, le malheur, malheur, et le mal moral. Je ne suis pas sûr que le texte le fasse. Les exégètes nous le disent, que le texte n'introduit pas cette confusion. Mais elle est nette chez Saint-Augustin, à mon avis. Alors ça se radicalise dans l'Épître aux Romains. Parce qu'on ne peut pas dire que la Genèse connaît l'idée du péché originant et du péché originé. Mais dans l'Épître aux Romains, vous trouvez, vous voyez, j'introduis ici un nouveau mot, une équivalence entre péché et mort. Et il s'agira sans doute de comprendre cela aujourd'hui. Une équivalence, non pas une causalité, à mon avis, mais une équivalence. Il y a un lien intime entre péché et mort. Mais quelle mort, voyez. Elle est affirmée, évidemment, je dirais, on ne peut pas, on sort de la tradition biblique et on entre dans d'autres traditions, grecques, etc., si on culpabilise Dieu. C'est-à-dire, vaut mieux abandonner à ce moment-là l'hypothèse Dieu. C'est-à-dire, Dieu est lié, ça c'est le propre, du monothéisme juif et chrétien. Dieu est bon, radicalement, il n'est que bonté, oi angelion, ou s'il n'est pas ça, il vaut mieux abandonner cette hypothèse-là. Et vous voyez, on est rapidement, on glisse vers d'autres types d'interprétations de la réalité dramatique de l'être humain. Voilà. Alors, dans l'Épître aux Romains, et je dis bien « semble » ici, « Adam semble acquérir une fonction causale », mais moi je me prononce plutôt en faveur d'une équivalence. On va voir dans la suite. Alors, vous voyez, là, il y a un deuxième élément, de débat aujourd'hui, la causalité adamique. Troisième difficulté, c'est au fond la linéarité terrible de l'argumentation classique. Vous voyez. L'état paradisiaque, l'entrée dans l'histoire du péché par la chute, et ensuite, évidemment, la nécessité d'une rédemption. L'œuvre du Christ est ici entièrement interprétée en fonction du péché, ce qu'il faut radicalement refuser aujourd'hui, me semble-t-il. C'est le grand acquis du Concile Vatican II d'avoir ici honoré l'Épître aux Romains, nous allons le voir, et d'avoir vraiment honoré jusqu'au bout les deux Pauliniens, Colossiens et Éphésiens, et Saint Jean aussi. Alors ça, c'est la troisième difficulté. Et la quatrième, c'est ce qu'on pourrait appeler, les exégètes utilisent parfois cette expression heureuse, une vision royale de l'universalité. Donc vous voyez, vous avez ici toute la littérature royale, davidique, derrière. Ici, au fond, je dirais peut-être avec des pharaoniques aussi, avec l'Égypte derrière, c'est-à-dire au fond, Adam... étant l'incarnation d'un universel royal. Le tous est envisagé par la causalité ou la responsabilité exercée par l'un sur tous, ce qui peut se comprendre dans un régime royal ou pharaonique. Ce qui est difficile à concevoir dans une vision démocratique du monde, vous voyez, on revient toujours à cette même difficulté, le lien entre l'unique et tous. Ces quatre objections sont liées à la manière philosophique de concevoir les rapports entre l'histoire et l'origine. Les quatre. Sur ce point, des réconsidérations actuelles ont permis, et je parle ici au passé, parce que c'est tout l'acquis de la théologie depuis 1950 que j'essaie ici de vous présenter, ont permis d'entendre les objections et de repenser le sens du péché originel. Alors, comment ? Voilà. Alors d'abord, je dirais donc ici, le dernier point de cette partie du chapitre, ce que depuis le début j'appelle rapport généalogique à l'origine. Donc, j'expliquerai maintenant un peu ce terme, modèle généalogique du côté théologique. Alors, un point zéro d'abord pour définir un peu les choses. La généalogie, elle est fondée sur une distinction, je dirais, qui apparaît pour la première fois de manière très précise chez Kant, entre commencement et origine. Entre commencement et origine. Le commencement, c'est le début d'une série linéaire. Voilà, vous avez une série. Voilà. Ça commence. Voilà. L'origine implique une relation à une altérité originante. Voilà. Vous voyez, c'est autre chose. L'origine, j'explique un peu. Une relation, elle est de l'ordre de la relation. Donc, Dieu, une altérité originante, vous voyez, c'est une autre manière de dire que l'être humain ne se réduit pas à son engendrement par le père et la mère, pour faire bref. Il y a au cœur même de l'être humain une unicité qui le renvoie à une altérité, aussi mystérieuse qu'elle soit, originante, et qui ne se trouve pas seulement au début d'une série, mais qui l'accompagne la série du début jusqu'à la fin. C'est ça la différence. Elle est contemporaine, elle est de maintenant. Le rapport à l'origine est toujours maintenant, ici et maintenant, aujourd'hui. N'est pas in illo tempore, en ces temps-là. Oui. Les deux termes sont évidemment liés, mais le risque de la confusion est réel ici. Et c'est cette confusion-là, si vous voulez, je dirais, qui est derrière l'interprétation que je viens de refuser. Alors le commencement peut être compris comme manifestation de l'origine, bien sûr, mais le propre du commencement est qu'il est insaisissable. Alors, je donne ici deux exemples. Personne n'est témoin des trois premières secondes de l'univers, évidemment. C'est-à-dire, même, j'ai dit, dans une théorie du Big Bang un peu intelligente à l'heure actuelle, on voit bien, c'est une reconstruction. C'est une reconstruction et qui explique un petit pourcentage du réel. Mais en soi, le commencement est insaisissable. Et l'autre exemple, j'ai dit le sommeil. Quand je suis réveillé, je suis déjà réveillé. Déjà réveillé. Personne n'insiste à sa propre naissance. L'histoire humaine, alors ici apparaît quelque chose de tout à fait décisif et qui explique au fond le mythe, la nécessité du mythe. L'histoire humaine, comment fonctionne-t-elle ? C'est-à-dire, c'est toujours une nation, un peuple, une communauté quelconque qui se donne un commencement, qui se donne un commencement, ou désigne un commencement. Pour la France, la Révolution française, évidemment. Mais c'est un mythe. Alors on peut déconstruire le mythe historiquement, mais quand on voit les célébrations 100 ans, 200 ans après, on voit bien, n'est-ce pas, comment au fond on assiste ici à une reconstruction continuellement d'un commencement qui peut être ultimement, même pour l'historien, est insaisissable. La Genèse et l'Épître aux Romains, voilà la thèse, fonctionnent exactement de cette manière-là. Ils fonctionnent de cette manière-là. L'enjeu de ces textes, c'est de découvrir, à partir de la situation présente historique de l'homme, la profondeur ultime impliquée dans cet état de fait. En désignant un commencement qui en lui-même est radicalement insaisissable. Voilà. Et au fond, je dis, même l'écriture de l'histoire fonctionne, Paul Venn a montré ça, fonctionne de cette manière-là. Le versant narratif, évidemment, dans l'histoire, chez les historiens, il y a tous les documents, etc., etc. Mais finalement, un historien crée un récit. Et donc, dans le récit est impliqué son positionnement absolument particulier, voire singulier, dans une société donnée. Ou comme disait Michel de Certeau, le métier de l'historien, remarquable cette formule, c'est de faire converser les morts et les vivants. C'est exactement ça. Exactement. Et vous voyez, le mythe fait ça, la Genèse fait converser les morts et les vivants, mais à partir des vivants. Parce que le commencement lui-même est insaisissable. Et donc la désignation atteint ici la profondeur généalogique de l'état actuel des choses. Sur le plan de l'exégèse, le récit de la Genèse ou Romains 5 relève, comme disent les exégètes, du genre étiologique, aitia. Aitia, c'est la remontée vers la cause en grec. Voilà. Alors, vous voyez, à partir de ce point central qu'il faut comprendre, on peut évidemment reprendre rapidement les quatre objections maintenant. Les quatre objections. Donc, premièrement, il est impossible de distinguer dans les textes eux-mêmes un état paradisiaque ou ante-lapsaire, maintenant vous comprenez ce mot, et un état post-lapsaire. C'est une distinction qui situerait la question du salut dans la situation post-lapsaire. Mais les textes ne justifient pas ça. Il faut évidemment respecter ici l'unité de Genèse 2 et 3. La question, juste quelques indices ici si vous voulez, quelques indices exégétiques importants quand même, je veux dire, c'est là où vraiment la théologie a absolument besoin de la recherche exégétique. La question du salut émerge déjà dans le chapitre 2 de la Genèse, avant la chute. Dans la description du jardin, l'homme dispose de tout, sauf des fruits des deux arbres, sauf l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme mange des fruits de ce dernier, il mourra. Donc vous trouvez ici déjà, dès le départ, la symbolique de la loi. Une limite à ne pas franchir est posée dès le départ. Et la menace de la mort est présente, même si l'homme n'y prête attention. Donc dès le départ, il est question de salut ici. Dans le chapitre 3, la question du salut paraît plus distinctement en raison du danger mortel, qui vient ici de la sagesse du serpent. Voilà. Le reptile le plus sage, voilà, le serpent. Mais manque et péril sont déjà là. Manque et péril sont déjà là. L'impossibilité, de nouveau, de distinguer ce qui est avant et ce qui est après. Il reste la question difficile, nous allons la repousser au fur et à mesure jusqu'au moment où on ne pourra plus ne pas l'aborder. Il reste la question de la mort biologique et qui évidemment ne pose comme tel hein, qu'à la fin du récit, le retour au sol dont l'homme est formé. Ça vient à la fin dans le chapitre 3. Alors, si on prend maintenant les deux récits dans la perspective des exégètes, et voyez, je vous donne ici une référence importante, Pierre Gibert, Bible, mythe et récit de commencement, Le Seuil, 1986, et il a refait son petit bouquin en 2007 sous le titre « L'inconnu du commencement ». L'inconnu du commencement. Donc, vous avez deux éditions, la deuxième a un autre titre et est vraiment remaniée. Alors, si on compare les deux récits, d'un côté, vous avez le récit des six jours avec le couronnement sabbatique, un univers parfaitement harmonieux dont l'homme et la femme sont l'achèvement, magnifique, le sixième jour, mais c'est-à-dire c'est un univers basé sur une loi de nouveau, une loi de distinction et de séparation. Distinction et séparation. Le mélange, ça va pas. Mélange, voilà. Le judaïsme a horreur du mélange, la confusion, séparation, distinction. Ciel et terre, les eaux au-dessous, les animaux, etc., etc. Mais le début du récit montre que l'acte de création est déjà identifié à un acte de salut parce que la création est une mise en ordre du chaos. Vous voyez, ici, le salut précède même, la question du salut précède même la question de la création. Donc, dans Genèse 2 et 3 et Genèse 1, vous avez deux conceptions différentes du salut. Dans Genèse 2 et 3, le salut est une sorte de correction. Et dans Genèse 1, le salut est impliqué dans l'acte même de création. Et Romain va garder les deux. Les deux, c'est ça qui est intéressant. Alors, il faut souligner encore le caractère tardif des récits qui sont, je reviens à mon hypothèse de base, le résultat généalogique de deux manières différentes d'écrire l'histoire. Vous voyez qu'ils sont tardivement mis au point de départ de la construction du Pentateuch qui relie déjà différentes manières d'écrire l'histoire. Le chapitre 2 et le chapitre 3 sont l'aboutissement généalogique et typologique, donc structurel, d'une écriture de l'histoire fondée sur l'idée de péché et de tentation. Vous trouvez ça notamment dans le livre de Samuel. Donc, et l'histoire des rois, une écriture yaviste, comme on dit aussi. Le chapitre 1, plutôt une écriture qu'on appelle parfois sacerdotale, qui concerne le salut comme création originante. Et là, c'est la traversée de la mer des roseaux, qui est la constitution de l'identité d'Israël et la sortie du chaos, de l'oppression et de l'indifférenciation égyptienne. C'est Pierre Gibert qui montre ça, le lien intime entre l'Exode et le premier récit de la création. Donc, vous voyez un peuple qui se donne une identité lui-même, à travers le récit de l'Exode. Bon, c'est sans doute chez l'expérience exélique qui est derrière, l'Exode étant déjà une construction mythique d'une certaine manière, et à l'arrière-plan, on comprend tout le réel de la même manière. Voilà, la sortie du chaos. Voilà. Salut création. L'idée d'origine n'est pas première, vous voyez, dans les textes, mais le résultat d'une désignation, je l'aurais dit, d'une rétrospection, elle est prophétique, finalement. Et si on regarde l'Épître aux Romains, justement, il va souligner très radicalement le caractère prophétique du premier chapitre de la Genèse. Vous trouvez ici cette même inversion, qui inverse donc l'ordre des chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse. Vous avez dans l'ordre, dans l'Épître aux Romains chapitre 1, l'ordre habituel, création, péché. Ensuite vient le chapitre 5 à 7, qui est le pivot, où Christ permet de comprendre ce qu'est Adam. Et dans le chapitre 8, on revient à Genèse 1, le retour à l'homme créé à l'image de Dieu, ceux qu'il a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et donc, vous voyez, Genèse 1 est donc transporté vers l'avenir. Donc, une interprétation prophétique qu'on a d'ailleurs, par ailleurs, dans le judaïsme, notamment avec le septième jour, qui viendra tellement central dans l'Apocalypse, c'est-à-dire le repos, l'idée du repos. Voilà. La démarche généalogique relativise donc très radicalement la distinction classique entre ante et post-lapsaire. Elle ne résout évidemment pas la question du lien entre le péché et la mort. Voilà. Alors ça, c'est la première objection. Maintenant, deuxième objection, c'est la causalité adamique. Et là, vous avez l'article ou le long texte du père Lyonnais qui remonte aux années 60, déjà après 1950, dans la bibliographie. Et la montrée, c'est le premier, que la traduction de Romains 5:12 par la Vulgate est intenable. Donc je vous donne ici les éléments. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes. Alors, maintenant viennent les traductions. D'ailleurs, tous ont péché. Souvent, on traduit aujourd'hui de cette manière-là. Vous voyez, on est dans une sorte de d'équivalence ici, presque de juxtaposition. D'ailleurs, tous ont péché. Alors, comment traduit la Vulgate? La Vulgate traduit « En qui, en ce premier homme, ou à cause de qui tous les hommes ont péché ?» Donc ça, c'est pas tenable, même en grec. Donc, vous regardez à la page 45 de votre dossier où je l'ai déjà mis. Alors, on peut traduire aussi « parce que tous ont péché » ou encore « d'autant que tous ont péché » ou encore « à cause de laquelle », donc la mort, « à cause de la mort, tous ont péché ». Vous voyez différentes manières, au fond, de comprendre la chose ou même en vue de laquelle. C'est-à-dire la mort, tous ont péché. Toujours c'est le rapport à la mort. Mais en tout cas, il n'y a pas de causalité ici entre le péché d'Adam et la mort. Dans le texte paulinien. Le texte indique effectivement un rapport d'origine à un originant. Et quel est cet originant? Tous ont péché et meurent. Donc vous voyez, ça c'est le simple fait observable. Tous ont péché et meurent. Le péché est entré dans le monde par un seul homme et par le péché la mort. Mais faut-il établir pour autant une causalité? Le père Lyonnais le conteste. Il n'y a pas de causalité. Le texte indique par contre clairement une solidarité entre tous et Adam. Le désignant Adam comme le premier. Mais le texte ne charge pas Adam de la double responsabilité d'avoir transmis le péché et la mort. Nullement, si on le traduit correctement, c'est-à-dire à partir du grec. Le refus de théologique d'accuser Dieu, pour éviter d'introduire en Dieu la confusion entre le bien et le mal, évidemment, Paul le réitère, ce serait la fin de l'hypothèse Dieu. Mais il ne conduit pas, ce refus ne conduit pas nécessairement à surcharger Adam. C'est-à-dire, les exégètes disent, maintenant il faut comprendre Adam comme figure, la question du lien entre mort et culpabilité, une fois qu'on fait ça, peut alors réellement se poser. Vous voyez, je la repose de nouveau. Alors, troisième élément. Troisième argumentation. À propos de la linéarité de l'argumentation classique, on peut aller assez vite, mais la compréhension généalogique de l'histoire permet effectivement de sortir de cette structure linéaire. Donc ça, c'est vraiment un acquis très important, difficile. J'ai encore éprouvé le samedi soir avec une toute petite fille de 9 ans de sortir, je dirais, du catéchisme presque intégrisant qu'elle avait reçu, et donc elle était malheureuse comme tout, Mais alors, est-ce que c'est une parabole ? Elle m'a dit, la fille. Ah, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, le point de départ était là, pour une petite catéchèse, pour lui expliquer finalement ce que j'ai fait ici avec des termes techniques, et comment fonctionne finalement, je dirais, le récit. Alors, la compréhension généalogique permet de sortir de cette structure linéaire. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, le rapport Adam-Christ n'est pas réversible. Voilà l'enjeu principal maintenant. Il n'est pas réversible. Adam est ici la figure, ou je dirais avec mes mots, le répondant négatif de l'œuvre du Christ. Le répondant négatif, ici, dans le texte, de l'œuvre du Christ. Ce n'est pas parce qu'on saurait d'avance qu'Adam est la source du péché qu'on peut déduire que le Christ est le sauveur universel. C'est l'inverse qui est vrai dans le texte de l'Épître aux Romains. C'est l'inverse. C'est parce qu'on croit que le Christ apporte le salut pour tous qu'on peut trouver en Adam le répondant universel du péché. Oui, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est premier ? Donc, on sort de la linéarité à ce moment-là. Donc, on est dans une vision généalogique. C'est à partir de la rencontre du Christ, effective, qu'on s'interroge sur son universalité. Et c'est là où on fait intervenir la figure d'Adam, à partir du Christ. Et il y a ici, alors pour confirmer et même mener plus loin ce que je viens de dire, une logique spécifique qui est mise en œuvre par Paul, ce qu'on appelle la conclusion, c'est une figure rhétorique juive, du calva-omer. Et qu'est-ce que c'est le calva-omer ? C'est une abréviation pour dire cette logique, si déjà à plus forte raison. Si déjà à plus forte raison. Mais vous voyez, c'est à partir du à plus forte raison qu'on conclut vers le déjà. C'est l'insistance. L'insistance ne repose pas sur la causalité, mais sur la surabondance, sur la multiplication du péché, conçu à partir de la surmultiplication de la grâce. Vous voyez, là, on revient à quelque chose de tout à fait décisif, c'est-à-dire celui qui ne fait pas l'expérience, comme dit Paul, de cette surmultiplication de la grâce, je traduis littéralement ici, voilà. De grâce en grâce, c'est aussi de Jean, chez Jean, dans le prologue. Donc, la surmultiplication de la grâce permet de comprendre rétrospectivement la gravité du péché. Et c'est là intervient la figure d'Adam. Donc le Christ n'est pas seulement le sauveur du péché. Il œuvre, laissez-le tomber les haies, il œuvre encore d'autres choses, nous allons voir quoi, en lien avec notre finitude de créature. Donc là, la linéarité, vous voyez, est totalement changer. Alors du coup, quel type d'universalité ? Il s'agit plutôt d'un type, vous voyez, typos, comme dit saint Paul, ou d'une figure collective, matricielle ou originelle, pourrait-on dire. Adam est le premier au sens structurel du terme. Il est premier au sens structurel du terme. L'observable du péché et de la mort universellement répandu s'enracine dans une structure. Mais voyez, le point de départ, c'est pas la structure. Le point de départ, c'est l'observable à partir de la surabondance de la grâce. Voilà. Du péché et de la mort universellement répandu. Une structure, ce qu'on pourrait appeler Adam. Il vaut mieux parler d'une structure adamique du réel, une structure adamique. Alors, il reste maintenant évidemment les deux questions que j'ai repoussées, ouais, et qu'il faut vraiment traiter sérieusement. Mais il fallait un peu déblayer quand même le terrain, j'espère que vous l'avez compris. Souvent, la catéchèse, c'est ça d'abord, je veux dire. On passe beaucoup de temps, hein, Notamment chez des personnes plus âgées, moins chez les enfants, qui n'ont pas connu, si vous voulez, tout un certain bazar qu'on a connu. De déblayer le terrain. Voilà. Déblayer le terrain. C'est déjà une œuvre salvifique, je pense. Alors, qu'est-ce qui reste? La question centrale théologique du péché et du salut dans le cadre de la création d'un homme bon en sa racine. Si l'homme n'est pas bon en sa racine, bon, il faut fermer la Bible. Ça commence par là. Bon en sa racine. C'est bon, 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 très bon. Mais qu'est-ce que le péché? Et ensuite, la question culturelle, j'insiste là-dessus qu'elle est pour une bonne partie culturelle, du lien entre finitude et mortalité, ou mortalité et péché. Alors, on va au moins entrer un tout petit peu dans la première des questions. Alors, vous voyez dans la suite, pour la question du péché, je vous propose maintenant de distinguer des niveaux. Pour rendre à la notion de péché toute sa complexité. Le premier niveau, je le formule de manière suivante, la mise en question de l'expérience éthique par le péché, voyez, d'une naïveté éthique ou moraliste qui peut toujours nous habiter, et le passage à l'expérience théologale, le péché étant d'ordre théologal et concernant la relation de l'homme à Dieu. Rien de plus, rien de moins. Le deuxième niveau, c'est la question de la responsabilité. Et c'est là où il faut introduire la question du péché originel, qu'on peut simplifier de la manière suivante. L'homme a toujours des circonstances atténuantes. Comme, ça, c'est le fond du péché originel. Comment tenir à la fois qu'il est inexcusable, il est responsable, et en même temps, il a des circonstances atténuantes. C'est très important, ça. Et ça, c'est le sens de la notion péché originel. Nous allons comprendre. Et ensuite vient la grave question des conséquences du péché. C'est pas verbal, il y a des conséquences. Et par le péché, la mort. Voilà. De quelle mort s'agit-il? Voilà, si vous voulez, les trois niveaux. Alors d'abord, le premier niveau, très rapidement, si on regarde l'Épître aux Romains, vous avez donc un point expérimental, vous voyez, où la lettre touche terre. Le point de départ de l'argument généalogique, c'est le chapitre 7, et le discours en jeu. 7-7. Vous voyez, dans 7-7, la loi est affirmée comme itinéraire qui conduit à la vie. Ça, c'est le Deutéronome. Fais cela et tu vivras. La loi fait vivre. Son contenu se concentre dans un seul commandement. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Indiquant en même temps, je dirais, parce que c'est la loi qui dit ça, tu ne convoiteras pas. S'il faut obliger l'homme à ne pas convoiter, ça veut dire il le fait. C'est ça que ça veut dire. Donc la propension de l'homme à se saisir de ce qu'il rencontre, c'est ça la convoitise, à se saisir de ce qu'il rencontre. Ce n'est pas le désir comme tel, mais sa déformation dans la convoitise qui est ici en jeu. C'est très important. Le désir est bon. Et à se laisser prendre donc par la séduction des êtres et des choses. Cette insistance du texte sur le côté affectif, voire pulsionnel de la loi, comme dirait Freud et Lacan, est décisive pour la suite du texte. Augustin l'a parfaitement compris, Luther aussi. Donc la loi est bonne. Voilà. Romains 7, 15, 18. Maintenant vient l'expérience de nouveau. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que j'ai hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi. La loi a raison. Je lui donne raison et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Donc voyez, c'est là l'analyse d'Augustin des deux volontés, où Ricoeur dit plus simplement la fragilité radicale de la volonté humaine. L'involontaire, comme il dit, ça c'est, je dirais, la faillite de l'éthique d'une certaine manière. Non, non, il faut de l'éthique. La loi est bonne, mais en même temps, on va la dire, l'éthique nous fait une promesse que l'éthique ne peut pas résoudre. Ne peut pas, voilà, accomplir. Il s'agit plus radicalement ici d'une division, comme disent les pères de l'Église, d'une division intérieure, attention, non pas entre corps et âme, mais entre, d'un côté, le plaisir de la loi. J'ai plaisir, c'est le Deutéronome, n'est-ce pas? Le plaisir de la loi et la loi des membres de la chair, donc le convoité. Comment comprendre, et ça c'est l'Épître aux Romains et la Genèse, toute la profondeur de ce phénomène? Et voyez, c'est là où intervient l'analyse généalogique qui remonte à partir d'une expérience d'aujourd'hui. Voilà, qui remonte. Et alors, j'explique ici, si vous voulez, dans la suite, donc dans Romains, on va s'arrêter là bientôt, dans Romains 1-3, le péché dans sa structure socioculturelle, comme péché du juif et comme péché du païen. Donc c'est des types de péchés différents. Romains 5, de manière plus radicale, comme péché adamique, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure la structure anthropologique qui affecte tout être humain. Et dans 1-3 s'opère le passage de l'expérience éthique, donc radicalement fragilisée, vers l'expérience théologale comme source ultime. Et voyez, c'est ça que je voudrais encore rapidement encore vous montrer avant de terminer. Romains 1, 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur. Voyez, le terme vient déjà là. Suit alors une description du retournement de l'expérience éthique. Donc la transformation du rapport au corps à partir de la convoitise du cœur. La transformation des relations humaines, vous avez tout un catalogue. Ce point, la pointe de ce passage est finalement l'autodestruction de l'homme, ou la décréation à travers le retournement de l'expérience éthique. Et si on cherche la signification du terme, qu'est-ce que c'est la colère de Dieu? C'est évidemment pas la colère de Dieu, mais Paul le dit, Dieu les livre simplement à la cohérence interne de la création, au jeu, action, effet. C'est-à-dire ce que la convoitise produit, finalement, l'autodestruction de l'être humain. Ce qui veut dire que la racine du péché est théologale. C'est-à-dire ce que Gaudium et Spes appelle le germe divin. Si l'homme ne respecte pas ce germe divin en lui, voyez, donc d'une certaine manière avec une force divine qui est en lui, et se tourne ultimement contre lui-même. Il y a un retournement qui se produit, et c'est au fond à partir du cœur humain, là, Gaudium et Spes est extrêmement précis, je vous ai montré ça, la personnalisation, l'origine du péché, c'est le retournement du cœur humain. C'est la convoitise, la convoitise. Et vous avez ensuite, tout de suite, dans le petit point ici que je donne, finalement, la racine du péché est théologale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le paradis, finalement? La connaissance de Dieu est l'origine et la destinée de l'homme. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, le vrai Dieu. Et voyez, la Genèse exprime la même chose en termes d'image. L'homme créé à l'image de Dieu, voilà son statut paradisiaque, mais qui est toujours devant nous et qui est en nous. Voilà. Donc la destinée. Alors évidemment, on a du mal à réaliser ça, parce que c'est évidemment une expérience mystique, ultimement, qui nous est proposée ici, une expérience théologale. La création implique certes une distance de l'homme à l'égard de Dieu, mais une distance intérieure à une affinité originaire. S'il y a dialogue possible entre l'homme et son Dieu, et donc paradis au sens biblique du terme, c'est que l'homme en son être profond est, selon la Bible, strictement inséparable du mystère de Dieu. Voilà, ça c'est la thèse biblique, strictement inséparable du mystère de Dieu. Et voyez, on comprend tout de suite que le péché, c'est pas telle ou telle transgression, mais c'est le renversement de cette relation. C'est ça, si vous voulez, l'ultime gravité, j'ai dit, du péché, et c'est pour ça que le péché est inconscient, très souvent. Le cœur même du péché. Donc vous voyez, c'est la clé ici. Et saint Jean nous la donne, mais Paul évidemment aussi, et la Genèse, le premier chapitre. Voilà. Donc la convoitise, c'est le renversement, au fond, de cette relation d'affinité intérieure et qui conduit alors finalement vers l'autodestruction de l'être humain. Bien, on va s'arrêter là, je voulais arriver au point le plus positif quand même, en parlant du péché. Et on va terminer ça la semaine prochaine. Voilà. Bonne semaine.